commercial sphere about that tea. Voilà, il paraît que parfois ma voix elle disparaît. Alors, voilà, c'est plus facile que ça. Du coup, j'ai trop chaud. On part ensemble déjà dans l'écriture, dans les Actes des Apôtres au chapitre 4. Et on va lire les versets 29 à 31. Donc voilà le contexte. Hein. La première église est déjà sur les rails. Les apôtres, les 120, tous ceux qui étaient dans la chambre haute ont été remplis de l'esprit. Et c'est là que ça se complique. Parce que cette première église, eh bien, dès qu'elle est sur pied, dès qu'elle se met à témoigner, parler de Jésus, eh bien, déjà, les temps difficiles, la persécution commence à arriver. Et dans ce chapitre 4, il nous est dit, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur, Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. J'aimerais lire encore avec vous, dans ce même livre, dans Actes au chapitre 5, les versets 29 à 32. Pierre, Jean et les apôtres ont commencé à témoigner. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance, le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Ça a été souvent un mot d'ordre pour les croyants de tous les âges. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà, ça me fait penser au temps de la Réforme. En France, voilà, on célèbre hein, tous ces hommes, Clovis, Charlemagne, Louis XIV, Napoléon, etc. J'ai pas toujours de la sympathie pour ceux qui ont mené le combat au bout du fusil ou de l'épée. Les dragonnades, on a enfermé des hommes, des femmes pour leur foi au temps de Louis XIV. Une femme est restée 20 ans, 30 ans en prison, Marie Durand, dans une tour, dans une cellule en pierre. Elle a écrit « Résister ». Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Luther a eu une vie pas toujours facile. Ces hommes, ces femmes, avant nous, ont su mettre en pratique. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui l'obéissent. La première église, à peine sur les rails, a été persécutée. Et de tout temps, l'église a été persécutée. Si vous suivez les infos, cette semaine, à nouveau, au Nigeria, plus de 320 enfants ont été capturés dans une école catholique. Ce n'est pas la première fois. Toute la bande du Sahel est en train d'être noyautée, voilà, par un islamisme djihadiste. Le Mali existe encore, mais il n'y a plus que tout en bas autour de la capitale. On ne sait pas très bien quand est-ce qu'il va tomber. Ça me touche, puisque 1903, c'est pas d'aujourd'hui. J'ai un grand-père que mon père n'a pas connu. Mon père est né quand son père était au Mali militaire et il est mort à Tombouctou. Il était enterré au carré français et il y a quelques années, les djihadistes ont cassé tout ce carré, tout ce cimetière des forces françaises à Tombouctou, au Mali. Donc voilà, comme j'aime la géopolitique, j'essaie de suivre ce qui se passe. On ne sait pas encore combien de temps, si au Mali, il n'y aura pas à nouveau un État islamique. Donc, parfois, la persécution n'est pas toujours des gouvernements laïcs, c'est aussi parfois des religions qui se... Voilà, parfois, le christianisme n'a pas été... Il en reste non plus. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ce qui... Depuis un peu plus d'un siècle, il y a tout ce renouveau de Pentecôte. On appelle charismatique, mais toutes les églises sont visitées, ressourcées par le Saint-Esprit. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui sont... Nous sommes témoins aujourd'hui de notre temps. Et nous sommes témoins du Christ Jésus, mort et ressuscité. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que quelque chose de nouveau est né, a jailli, a surgi dans nos vies. Et quelque chose dans les sources et des ressources de Dieu sont venues dans nos vies. Naissance de l'Église, 12 disciples, 120 disciples, tous ceux qui étaient dans la chambre haute, et puis Pierre, Jean qui se présente à Jérusalem. Et à Jérusalem, il y a un réveil. Dès que Pierre parle, vous vous rappelez combien ? 3000 conversions. L'Église commence à s'organiser. Puis, 5000 conversions, croissance. Il est dit que l'Église se développait. On lit dans Actes 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Je préfère que l'Église grandisse par l'assistance du Saint-Esprit que par tous les programmes, par toutes nos capacités, nos compétences, nos techniques d'évangélisation. Voilà, ça veut dire que chacun se place devant Dieu pour être témoin, témoin du Christ. Être dans l'obéissance et être dans le témoignage à Jésus. Toute l'Écriture nous parle des témoins de Dieu. Des patriarches, des juges, des rois, des prophètes, des premiers disciples, des femmes, les premiers apôtres, les évangélistes. Tellement d'hommes et de femmes qui sont des témoins, des modèles pour chacun d'entre nous dans ce que Dieu veut que nous soyons. J'avais attaqué déjà depuis plusieurs semaines des thèmes voilà, parfois un petit peu difficiles et je voulais vous parler. Voilà. La première église est née de l'Esprit. Depuis un peu plus d'un siècle, il y a tout ce réveil pentecôtiste charismatique. Ce Saint-Esprit qui insuffle, qui souffle quelque chose de nouveau dans l'Église. Peut-être que notre temps est un temps de bascule. Après, il faut toujours prendre les paroles prophétiques, il les dit avec recul, les examiner. Je me suis converti il y a un peu plus de 50 ans dans une église de maison. Et puis, voilà, ma maman tenait dans un cahier tout son parcours spirituel. Et puis, elle avait noté toutes les paroles prophétiques voilà, qu'elle a reçues tout au long de sa vie. Et il y en a une qui disait « Vos enfants seront les témoins de la dernière heure. » Alors, je ne sais pas si mon vivant, je serai enlevé dans les airs avec Jésus. Là aussi, hein, toute parole prophétique est soumise à jugement, à discernement. Il a dit qu'on ne sait pas quand, voilà, on ne sait pas les choses. Mais il faut quand même savoir qu'on vit dans des temps, je dis difficile, c'est encore un petit peu juste. Le monde est à nouveau bouleversé. Je vous rappelle le XXe siècle, la grippe espagnole, je crois que c'est 5 millions de morts en Europe. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Et puis à l'heure actuelle, tout le monde se dit qu'il va y en avoir une troisième. Et où est-ce que le monde va en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Est-ce qu'il y aura encore des témoins du Christ Jésus? Et dans notre rapport avec lui, dans notre foi, est-ce que se considère chacun encore comme des témoins du Christ vivant, ressuscité? Et est-ce que, comme la première Église qui a été persécutée, comme voilà, tous ces chrétiens qui sont persécutés aujourd'hui, Jean-Marc le rappelait la semaine dernière, 380 millions de chrétiens sont sous pression dans le monde. C'est pas 1000, hein, c'est pas 10 000, c'est pas 1 million, je vous rappelle le chiffre. Hein. 380 millions de chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants, évangéliques, donc toutes dénominations confondues, sont sous pression dans le monde. Certains plus que d'autres. En ce moment au Sahel, c'est pratiquement toutes les semaines que dans la zone sahélienne, des gens meurent pour leur foi. Et bien souvent, avec des choses terribles qui se passent. Acte des apôtres, dès que la première église est née à Jérusalem, la persécution est arrivée. Pierre et Jean ont été mis en prison. Et puis il y a un monsieur qui s'appelait Saül, qui s'est dit, quoi, comment ça? Une nouvelle religion à Jérusalem? Mais enfin, moi vivant, jamais de la vie. Il en est mis en prison, il en a tué. Saül, qui s'appellera ensuite Paul, quand Étienne a été lapidé, il tenait ses sandales, ses chaussures. Il se convertit quelques mois, quelques années après. Et puis il dit, voilà, je suis le pire de tous les hommes. Même étant apôtre, je ne suis pas... Il y a quelque chose. J'ai persécuté l'Église de Dieu jusqu'à la mort. Et en même temps, il a été ce témoin. Prions pour tous ceux qui aujourd'hui persécutent les chrétiens. Il dit, priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis. Priez pour que dans le Sahel, dans tout ce monde de l'islam, dans tout ce monde aussi, tout ce monde moderne, tout ce monde de l'intelligence artificielle, tout ce monde qui nous échappe, tout le corps, moi qui m'échappe un petit peu aujourd'hui. Prions pour que l'Esprit de Dieu puisse toucher les gens, qu'il puisse y avoir encore des témoins. Je voulais... Là, on a lu ce qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est le démarrage de l'Église. J'aimerais revenir un petit peu en arrière. On va lire l'histoire des deux témoins, des deux Oliviers. On lit dans Zacharie, le livre du prophète Zacharie. C'est tout à la fin de votre Bible. L'histoire des deux Oliviers, des deux témoins. Puis on va voir un petit peu, voilà, prier pour qu'il y ait une onction, vraiment, que le Saint-Esprit ait la liberté de toucher des hommes et des femmes dans notre temps. Que le monde puisse être visité, ressourcé par Dieu dans les temps qui viennent. Zacharie chapitre 4, l'ange qui me parlait revint. Il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde. Voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase, l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ses mains l'achèveront. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Je prie la parole, je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je prie une seconde fois la parole, je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Il me dit, ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Dieu a eu des témoins dans tous les temps, dans toute l'histoire. Élie, Élisée, Jean, Jean-Baptiste, Jean-Pierre, Paul, Apollos, etc. Et aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à être ces témoins? Le texte dit, alors, ça a fait rigoler Catherine il y a longtemps quand on le partageait, mais j'ai appelé ça les, c'est dans le texte hébreu, hein, les fils de l'huile fraîche. Est-ce que le fait d'être rempli du Saint-Esprit fait de nous des hommes sous cette onction d'huile, directement branchés sur les, ces oliviers qui donnent de l'huile? C'est une image, hein, c'est une vision. Pour encourager deux hommes, les deux témoins, Josué, Zorobabel, ces hommes ont suivi l'édit de Cyrus qui disait « Reconstruisez Jérusalem après tout un temps d'exil. » Esaïe dit de Cyrus « Voici mon oint, celui que j'ai oint pour ouvrir la porte de la reconstruction de Jérusalem. » Et deux hommes, témoins, sont sortis du lot, un gouverneur et un souverain sacrificateur. Et on dit « Moi, je vais à Jérusalem et puis on reconstruit. » On lit ensemble dans le livre d'Esdras, parce qu'on retrouve Agé, Zacharie, ces prophètes étaient là au moment de la reconstruction. Donc j'aimerais lire avec vous dans le livre d'Esdras, chapitre 1, verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix par écrit cette publication dans tout le royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Qui d'entre nous veut recevoir l'Esprit et être témoin du Dieu vivant et vrai? Au chapitre 3, les versets 1 à 5. Le septième mois arriva. Les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsalak, c'est le souverain sacrificateur, avec ses frères les sacrificateurs, Zorobabel, fils de Shealtiel, ses frères se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rebâtirent l'autel sur ses fondements. Quoi qu'ils aient à craindre les peuples du pays, ils offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir, ils célébrèrent la fête du tabernacle. on dit encore, on lit encore les versets 10 et 11. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, les lévites, les fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant, louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Est-ce que nous sommes toujours partants pour poser les fondements de l'autel et du temple de Dieu à Kévin et dans la région l'orientaise? Et est-ce que l'on est prêt, témoin, à se laisser remplir de l'Esprit? J'aime beaucoup ce texte parce qu'il dit « Ils se rassemblèrent comme un seul homme ». Quand l'Esprit a rempli la première église, ils étaient 120 dans la chambre haute et ils étaient tous d'un même cœur. Un même cœur, une même pensée, une même foi pour annoncer la parole de Dieu. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon Esprit. Il y a dans le monde certaines églises, je resterai vague, mais on appelle ça le dominationnisme. Des églises qui pensent que c'est à l'église d'instaurer le royaume de Dieu. Y compris par la contrainte, la domination. Voilà, on a rencontré ça au Moyen-Âge. Est-ce que l'on est prêt simplement à être témoin, à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, mais à simplement se laisser remplir de l'Esprit-Saint? Ce n'est ni par puissance, ni par force. Ce n'est pas seulement mes compétences, mes capacités, mon grand âge, ma grande sagesse que l'Église va être bâtie. L'Église se bâtit quand on répond à l'appel de Dieu et quand on obéit simplement avec simplicité au Seigneur. Après, voilà, ça fait un peu litanie, je le répète souvent. Le compliqué, ce n'est pas d'ouvrir une église. C'est de pouvoir la présenter un jour au Seigneur avec sa croissance, son développement, et qu'elle ne repartienne pas à ceux qui l'ont développée, mais qu'elle soit vraiment appartenue au Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi la gloire, à toi, que le retour se fasse, que la louange, l'adoration se fasse dans le retour. Première chose qu'ils ont rétablie, c'est l'autel. Première chose à établir dans nos vies, je suis vivant Jésus-Christ parce que Jésus est mort sur la croix. Notre autel, c'est la croix. Là où le corps de Jésus a été crucifié, là où son côté a été percé. Josué, le souverain sacrificateur, Zorobabel, le gouverneur, ont été encouragés par la parole prophétique, par des visions. Voilà, si un jour vous avez le courage, vous pourrez lire tout le livre du prophète Zacharie en même temps que vous lirez l'Apocalypse. Il y a beaucoup de choses semblables. On retrouve les chevaux, on retrouve voilà, plein de visions intéressantes. Ils ont posé l'autel, ils ont posé les fondements du temple. Est-ce que nous posons dans nos vies le fondement du Christ ressuscité, lui aussi qui est là pour accompagner nos vies, pour guérir nos vies, libérer nos vies des choses passées. On a lu le texte il y a 2000 ans, l'Église qui s'est formée, on a lu ce texte de Zacharie où, après l'exil, on commence à rebâtir l'autel, le temple, Jérusalem. J'aimerais lire avec vous, c'est un petit peu la même histoire, on la retrouve dans l'Apocalypse. C'est exactement la même vision que Zacharie, c'est exactement les mêmes choses, des choses qui vont se passer dans cette transition de la fin et au moment où il y aura cette onction finale. Prions pour que l'Esprit de Dieu puisse remplir la terre entière. Le monde n'a rien besoin d'autre que de Jésus. Le Christ crucifié, ressuscité, glorifié, et l'envoi de l'Esprit. On lit dans Apocalypse au chapitre 11. « En me donnant un roseau semblable à une vierge, en disant, « Lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel, ceux qui y adorent. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-le de côté. Ne le mesure pas, il a été donné aux nations. Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 années et demie ou 1260 jours. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtu de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un va leur faire du mal, du feu sort de leur bouche, dévore leurs ennemis. Si quelqu'un va leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, les tuera. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu'on nomme symboliquement Sodome, Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues, des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause de cela, les habitants de la terre se réjouiront, seront dans l'allégresse, s'enverront des présents les uns les autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, ils se tinrent sur les pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Ils montèrent au ciel dans la nuée, leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. La 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les hommes furent effrayés, donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Vous dites pourquoi est-ce que je lis ces choses? L'Apocalypse nous parle d'une période de transition. Souvent, les choses prophétiques, il se passe une chose sur la terre, il peut se passer au niveau spirituel la même chose des années, des centaines d'années après. Lors de la reconstruction, le retour de l'exil, il y a eu ces deux témoins, ces fils de l'huile, ces hommes remplis du Saint-Esprit, qui ont reçu cette parole ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Il y a un temps où, juste avant l'enlèvement, il va y avoir cette dernière onction de Dieu, cette pluie de l'arrière-saison. Déjà depuis 2000 ans, tout le Nouveau Testament dit, voilà, Jésus revient, Jésus vient bientôt, il y a ce retour prévu de Jésus. Et dans cette période de transition, les nations vont être bousculées. Et de même qu'il y a eu Pierre et Jean, au moment de la première église, il y a eu Paul, Apollos, il y a comme ça des binômes, il y a eu Jean-Baptiste, Jésus, il y a eu Élie, Élisée. Il y a un moment où dans les nations, à Jérusalem, il y aura deux témoins de Dieu en lien direct avec l'Esprit qui vont secouer un peu les gens comme Élie, Élisée. Et puis à leur parole, ben, les nations vont être un petit peu secouées. Moi, je m'associe à voilà, toute cette compréhension de ce livre. Ce n'est pas un livre qui est fait pour faire peur. Il est là pour nous annoncer les choses à venir. Et je me réjouis qu'il y ait toujours des témoins de Dieu. Soyons pleinement témoins de ce que le Seigneur nous donne à chacun. Non pas par notre propre force et notre propre puissance, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Ces deux hommes, les nations, chefs des nations, vont arriver à le faire mourir. Et comme Jésus, trois jours après, ils vont ressusciter. Comme Élie, ils vont être enlevés. Un autre homme a été enlevé il y a très longtemps, il s'agit de Hénoc. J'en lis dans Genèse au chapitre 5, le verset 24. Il y a très peu d'hommes qui ont vécu ce type d'expérience. Genèse 5, 24. Hénoc marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Voilà donc un homme qui a vécu quelque chose d'extraordinaire. Il est parti avec Dieu sans mourir. Deux rois de 11, c'est l'histoire d'Élisée, qui a vécu aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà, deux rois de 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu. Des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Donc ce texte d'Apocalypse nous présente des expériences que d'autres êtres humains ont déjà faites. Le temps dont il est parlé dans ce texte d'Apocalypse, c'est un temps de jugement. La scène se passe à Jérusalem. Il y aura ces deux témoins, ces fils de l'huile, ces gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui vont annoncer aux nations, voilà, le temps où Dieu va prendre le contrôle des nations arrive. Aujourd'hui, on se demande, mais il y a la COP 30 en ce moment, on se dit, mais comment est-ce qu'on fait pour qu'il fasse moins chaud? Bah, chez nous, on appuie sur un bouton, puis on met moins 1 degré, ou plus 1 degré, on contrôle notre... Contrôler le climat de la Terre et la température, c'est compliqué. Et puis en ce moment, il y a comme un dérèglement. On devrait être à plus 1,5, et puis on peut être à plus 1,8, plus 2, peut-être plus 3,5 en fin de siècle. La création, la terre que nous allons laisser à nos enfants, il y a comme un problème. Un problème de dérèglement, on appelle ça dérèglement climatique. Il y a des choses. Et les nations qui bouillonnent avec toutes sortes de choses. Je ne vais pas en faire la liste, parce que c'est notre quotidien si on écoute les infos. Passage d'une nuit au jour, passage des ténèbres à la lumière. Il y a un temps où Jésus va revenir pour mettre les nations au pas. Dans Ésaïe, il dit qu'il va leur mettre une ceinture. Et dans les psaumes, psaume 2, psaume 110, tous les chefs des nations vont être obligés de venir dire à Jésus, c'est toi le chef, c'est toi le roi des rois. Le Seigneur, en ce moment, hein, si vous suivez l'actualité, tous ces chefs d'État qui promettent la paix, la paix, la paix. Quand les hommes diront paix, paix et sécurité, les choses risquent de... On est dans un monde incertain. Israël, Jérusalem a été rempli du Saint-Esprit il y a 2000 ans. 2500 ans, des hommes, des femmes ont été remplis de l'Esprit et ont rebâti Jérusalem. Aujourd'hui, nous sommes dans la construction de l'Église, dans l'édification de l'Église. Mais lorsque Jésus va revenir, il nous dit, est-ce qu'il y aura encore de la foi, est-ce qu'il y aura encore des chrétiens sur la terre ? tout ça. Bon, j'ai toujours gardé quand même cette parole que ma mère avait reçue. Vos enfants seront les témoins. L'année dernière, je me dis, voilà, Michel, il faut que tu ailles jusqu'au bout, sois témoin jusqu'au bout. Après, notre Père Céleste fait comme il veut. Et puis, Oh, j'ai réveillé Jean-Marc. L'esprit réveilla l'esprit de Cyrus. Qui dit qui est du peuple d'Israël ? Reconstruction. Dans la chambre haute, les 12, les 120. Vous vous rappelez les deux disciples d'Emmaüs ? Je ne sais pas ce qui s'est passé, ben, il est mort. Et puis Jésus, qui leur parle, qui leur dit, allez dire à mes frères, à mes sœurs, voilà. Et leurs yeux s'ouvrirent, il est ressuscité. Le monde a besoin de témoins, a besoin de faire entendre encore ce message. Encore aujourd'hui, le même appel. Nous sommes appelés à être remplis de l'Esprit. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon Esprit sur toute chair, vos filles, sur les serviteurs, sur les gens âgés. J'allais dire amoris, ben même les vieux, non, les anciens. Samedi prochain, moi j'ai reçu un courrier de la mairie de Gestel. Vous êtes invité au repas des anciens. C'est pas dit des vieux. Hein. Mais je me suis dit, waouh. Chaque année, je prends de l'âge. Même sur les serviteurs et puis sur les gens âgés, Dieu veut répandre son esprit, ni par force, ni par puissance. Ça soulage. Ce n'est pas mes capacités dans le domaine politique, artistique, etc., qui vont faire que je vais transformer le monde. Ce n'est pas parce que je suis chef d'État, député, sénateur, maire, président d'agglomération, etc. Tous ces gens-là sont à leur place. Mais chacun d'entre nous a aussi la sienne, aussi comme intercesseur, comme pour venir devant Dieu. Je termine avec un texte un peu énigmatique, mais qui est intéressant. Apocalypse, ah oui, puis je voulais, parce que... C'est quoi ? Les petits cœurs, c'est des aimants. Vous savez ce qui se passe ? Hop. Quand Jésus va revenir, tous ceux qui ont Jésus dans leur cœur, seront avec Jésus pour l'éternité. Wow. Apocalypse 12, verset 10-12. Je lis au verset 10. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, à la mer, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Maintenant, le salut est arrivé. Prions pour que le règne de Jésus arrive. Souvent, moi je prends beaucoup de recul, j'aime beaucoup la géopolitique, donc je suis pas mal les infos, et en même temps je prends énormément de recul. Le seul à pouvoir installer la paix sur la terre, c'est le Christ Jésus. Il n'y a aucune solution humaine, aucune solution militaire. aucune couverture nucléaire. En ce moment, tout le monde dit, ah ouais, mais en France, on a un parapluie nucléaire. Je vous laisse imaginer la dinguerie de cette chose. Un peu plus de 50 ans, voilà, tout le monde épile, quand je faisais partie, j'avais lu un bouquin écrit par un japonais, Le fou est-il normal ? Il raconte l'abomination Hiroshima-Nagasaki. Je vous laisse imaginer, la paix, parce qu'on a un parapluie nucléaire, c'est-à-dire des bombes capables de faire disparaître l'espèce humaine. Et je ne sais pas si nos dirigeants et si les habitants de la Terre voient où est la distorsion. Il y a une distorsion. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. L'accusateur de nos frères est précipité sur la croix. Colossiens nous dit que voilà, l'ennemi a été dévoilé au monde et il a perdu de sa puissance. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Soyons remplis de l'esprit, soyons remplis du témoignage à rendre au Christ Jésus. Seigneur Jésus, merci de ce que ta parole, l'histoire, nous apprend, de ce qui est. Merci parce que tu es celui qui est, celui qui était, aussi celui qui revient. Merci de remplir tes fils, tes filles, ceux qui t'appartiennent, tes frères, tes sœurs. Merci de remplir tous ceux qui t'appartiennent de ton esprit, de ta parole. Merci pour cette parole, ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit, Seigneur Jésus. Merci de nous rendre attentifs à toutes ces choses. Merci de faire de nous des hommes, des femmes réveillés, des sentinelles, des intercesseurs, des témoins. Voilà, ces fils de l'huile, ces hommes, ces femmes, branchés directement sur ton esprit. Amen.